16h49, presque 50. Raphaël, tu nous as laissé en plein suspense tout à l'heure parce que un sondage indique que les Américains trouvent qu'ils sont dans une bien mauvaise situation.
C'est peut-être l'euphémisme de l'année, Marie-Claude. Écoute bien ça. Bon an, mal an, l'économie américaine, elle est citée comme la question la plus importante par les électeurs lorsqu'ils vont voter. Tout au moins, l'une des plus importantes. Et ça, c'est vrai, surtout quand ça va mal économiquement. Je te donne un exemple. Dernière crise économique qu'on avait eue, celle de 2008, tu vas t'en souvenir comme moi.
Oui.
Le gros crash à Wall Street avec la faillite de Lehman Brothers à la mi-septembre en 2008, moins de 2 mois avant le vote, et le jour du vote en novembre 2008, c'était plus de 60% des électeurs qui disaient que l'économie était l'enjeu le plus important, le problème le plus important, donc faisant de l'économie et de loin l'enjeu numéro un. Aujourd'hui, 2020, l'économie américaine, c'est même pas comparable à 2008, là. Elle est dans le pire trou depuis la Grande Dépression. Ça fait presque 100 ans. Et écoute bien ce que la firme Gallup a sorti aujourd'hui. Lorsqu'on demande la perception des Américains, tous les Américains à la grandeur du pays, quel est, selon vous, le problème le plus grave affligeant présentement le pays? C'est moins de 10% qui disent que c'est la situation économique. Ça te montre-tu à quel point ça va mal?
Mais ils sont complètement déconnectés.
C'est soit qu'ils sont complètement déconnectés, ou c'est soit qu'ils voient qu'il y a pas mal d'autres problèmes excessivement graves ou qu'ils voient comme étant excessivement graves. Et donc, qu'est-ce qu'on compte dans cette liste-là? Ben, le coronavirus, sans grande surprise. Écoute bien ça, la gestion du gouvernement, le mauvais leadership gouvernemental, c'est cité comme le deuxième plus grave problème présentement aux États-Unis, les relations raciales. On cite également le manque d'unité et les violences présentement qu'on observe. Toi et moi, on s'en est parlé, des violences épouvantables dans les grandes villes américaines.
Oui, alors, mais là, ça me fait comprendre le moins de 10% sur l'économie parce que, comme tu dis, ils sont préoccupés par bien d'autres choses.
C'est ça, c'est exactement ça. Et écoute bien ceci, parlant de données assez ahurissantes, là, à Chicago, toi et moi, on s'est parlé de la situation à Chicago. On est rendu qu'en juillet, le dernier mois qui vient de se conclure, on a recensé plus de 100 meurtres. Juste pour donner une petite comparaison, là, Montréal, je l'admets, une ville plus petite, on doit le dire d'emblée, mais quand même, là, à Montréal, c'est plus que ce qu'on a en une année, typiquement. Là, tu vas dire encore une fois que Montréal est peut-être plus petit.
Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est que, les mentalités sont différentes.
Oui, c'est sûr.
Deux, les armes à feu, c'est pas la même. Ici, c'est pas une valeur, si tu veux, là, comme aux États-Unis, pour qui c'est sacré d'être armé et tout ça. Donc, à partir du moment où tu es armé, tu sais jamais comment ça peut finir. Hein?
C'est sûr. Sauf qu'on s'entend que même si on comparait Chicago à Chicago, comme on l'a fait dans les dernières semaines, tu verrais que 2020 est déjà dans un cas à part. Et dernière victime dont on a beaucoup parlé à Chicago, hein, Marc-Claude, victime de meurtre, garçon de 9 ans. Ça donne une petite idée.
Tu es par un adulte?
Parce que c'est une bonne question.
Des enfants qui jouent ensemble avec l'arme.
Là, on parle de meurtre. Donc, ma compréhension, c'est que j'imagine que c'est malheureusement quelqu'un de plus âgé.
Quelle horreur. Alors, donc, ça voudrait dire que les Américains, que ce soit des républicains ou des démocrates, considèrent qu'en ce moment, il y a des problèmes plus importants que l'économie à régler.
C'est ça.
Et ça peut changer complètement la donne pour l'élection.
Bien, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet un petit peu de parler de l'autre gros sujet qu'on voulait couvrir, c'est-à-dire la campagne présidentielle et surtout la campagne de Joe Biden. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont dit, tu sais, si on est capable de parler davantage d'économie, ça va peut-être aider Donald Trump.
Ben là, c'est clairement,
clair. C'est peut-être clair en principe, sauf que c'est juste pas ça qu'on observe pour l'instant. Et pour le camp Trump, il y a quelque chose d'excessivement frustrant parce qu'on voit qu'évidemment, Joe Biden a à peine à faire campagne et il mène quand même dans les sondages. Et pour le peu d'activités qu'il fait, le peu d'événements, entre guillemets, de campagne, c'est même pas des vrais événements, presque toujours, ce sont des espèces d'entrevues qu'il fait à partir de son sous-sol. Je veux qu'on entende une vidéo de M. Biden. Ça, c'est dans les dernières heures. C'est en train de faire le tour des réseaux sociaux où on lui demande ce que Donald Trump veut savoir depuis quelque temps, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà fait un test, est-ce qu'il a déjà essayé de passer un test cognitif? Donc, l'intervieweur demande à M. Biden s'il a passé un test cognitif. On écoute ensemble, Marc-Claude, la réponse du candidat démocrate.
No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man. That's like saying you, before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Are you a junkie?
What do you say?
Bon, donc, oui, en effet, la comparaison est intéressante. Oui, je te laisse traduire.
Non, mais juste rapidement. Donc, On lui demande, est-ce que tu as fait un test cognitif? Il dit, pourquoi j'aurais fait un test? Est-ce que vous avez fait un test pour voir si vous avez consommé de la cocaïne avant d'entrer en onde? Êtes-vous un junkie? C'est, fait que t'allais dire que la comparaison est spéciale, là.
Oui, elle est assez boiteuse, mais il reste que... c'est parce que M. Trump, lui, n'arrête pas de se vanter qu'il a passé des tests, puis que l'autre devrait en passer, etc.
C'est vrai. Sauf qu'il reste que c'était pas la réponse la plus habile. On s'entend, surtout dans un contexte où ça mérite d'être dit, Marie-Claude, là, surtout dans le contexte racial actuel, l'intervieweur en question est afro-américain. Tu sais, on s'entend que... Ça a peut-être un peu de sensibilité dans
gaffeur.
Le contexte actuel.
Non, mais c'est un gaffeur. C'est ça. Il est connu comme étant un gaffeur. D'ailleurs, dans cette même entrevue, Moni dit, je le dirai pas, je pense que je vais regretter de dire ce que j'allais dire. T'sais. Alors au moins, il s'est peut-être rendu compte de ce qu'il venait de faire, puis il avait peut-être vu les yeux complètement sidérés de l'intervieweur.
Mais puis, ça te montre pourquoi c'est frustrant pour la campagne de Donald Trump. C'est, on se dit, ce type-là, ce candidat-là du côté démocrate, a des failles qui sont évidentes. On parvient pas à les exploiter. Parlant de M. Biden, j'ajoute aussi ceci. On était censé apprendre l'identité de sa colistière, donc de sa candidate vice-présidentielle, cette semaine. De ce qu'on comprend, ça va être repoussé à la semaine prochaine, donc dans les jours qui vont précéder
le début
de la Convention démocrate.
Tu nous avais promis avant vendredi. Non, je fais des blagues.
Non, t'as
Raphaël,
raison.
Mais j'écoute, j'ai tellement hâte de voir. Qui sera la colistière?
C'est parce que ça risque d'être super important, ne serait-ce qu'à cause de l'âge.
Ça risque
de
pas,
Biden,
ça va être super
ça
important.
Ça va être important. Mais aussi, pour cette raison-ci qu'on évoque peu, le vice-président, ou possiblement la vice-présidente des États-Unis, c'est la personne qui brise l'égalité au Sénat. Quand on a un Sénat qui est à 50-50, le bris d'égalité vient du vice-président ou de la vice-présidente. Et là, je te dis, là, Marc-Claude, on regarde la carte électorale au Sénat. S'il y a une élection aujourd'hui, excellente chance qu'on aille un Sénat divisé à 50-50. Autrement dit, là, la sélection de colistière de la part de M. Biden pourrait être drôlement importante, pas juste à des fins électorales, mais d'un point de vue, de gouvernance aussi, là.
Bon, en terminant, il nous reste moins d'une minute, le docteur Anthony Fauci dit être la cible de menaces.
Oui, et écoute, c'est assez remarquable parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un scientifique, un médecin de profession qui essaie d'adresser la crise du coronavirus soit une cible importante de menace. Or, le docteur Fauci révèle que c'est pourtant le cas aux États-Unis, s'est rendu à un point tel où il a besoin d'agents de sécurité le protégeant à cause qu'il reçoit trop de menaces de mort, lui, sa famille, ses enfants. C'est assez remarquable le climat dans lequel on est aux États-Unis. Ça, c'en est un autre indicateur, ouais. Assez troublant.
Oui, c'est plus que troublant. Écoute, Raphaël, on va se laisser là-dessus. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée et on te retrouve demain.
À demain.
Salut. Alors, on va s'arrêter maintenant pour une pause et pour les nouvelles, de retour tout de suite après avec nos chroniqueurs.